Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masirika.
À la une ce soir, la RDC en proie à la troisième vague du coronavirus. Kinshasa a dépassé le cap de 22 000 cas confirmés au 31 mai dernier suite au non-respect des mesures barrières, mais aussi à la multiplicité des variants indiens, brésiliens et britanniques. La société civile et des habitants redoutent la montée de l'insécurité à Butembo et à Beni vu l'afflux de déplacés venus de Goma qui ne sont pas contrôlés. Ils proposent l'identification des déplacés et des familles d'accueil pour se rassurer que des inciviques ne les ont pas infiltrés. Notre invité, c'est le chargé du monitoring à la Convention pour le respect des droits humains basée à Beni. Maître Eli Kionga explique comment les organisations de ces secteurs perçoivent les atrocités commises par des hommes armés au mois de mai dernier. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous venons de l'apprendre. 10 morts et 4 blessés, c'est le bilan d'une incursion d'hommes armés la nuit dernière à Exode, une carrière d'or située à 15 km de Mongualou, à la limite entre le territoire de Djougou et celui de Mambasa en Ituri. Des sources sur place indiquent qu'il s'agit d'une coalition des miliciens, des groupes armés de la CODECO et de la FPIC. Plusieurs boutiques ont été pillées à l'occasion et des habitations ont été saccagées, ce qui a entraîné du coup un mouvement des populations dans la zone. Santé. Au 31 mai dernier, la ville de Kinshasa a dépassé le cap de 22 000 cas confirmés du coronavirus. Le comité technique de riposte affirme que la RDC fait déjà face à la troisième vague de cette pandémie. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi ce mercredi, le responsable de la commission de la prise en charge des patients à ces comités cite quelques causes qui justifient cette augmentation des cas de contamination et d'hospitalisation. C'est par exemple le non-respect des mesures barrières observées depuis un moment à tous les niveaux, mais aussi la multiplicité des variants indiens, brésiliens et britanniques enregistrés sur le sol congolais. Le professeur Jean-Marie Kayembe a été joint par Alain Rungumushige.
Nous sommes dans la troisième vague en ce moment, lorsque on remarque le nombre de cas de nouvelles infections qui augmentent, mais également la saturation des centres de prise en charge de ces malades Covid. La première chose qui l'explique, c'est la non-observance ou l'observance tangentielle des mesures barrières. Nous pouvons tous reconnaître qu'il y a un relâchement quant à l'observance des mesures barrières. Regardez combien il y a encore dans les agglomérations, dans les institutions, dans les entreprises, combien y a-t-il encore de points de lavage de mains? Combien y a-t-il encore de thermoflashs pour contrôler la température? Le port du masque, n'en parlons pas, la distanciation physique également. En second lieu, il est important de pointer tout de même, et ça c'est un phénomène inhérent particulièrement au virus, c'est l'apparition des variants. Vous avez entendu parler dans le monde entier du variant indien, le variant brésilien, le variant britannique, le variant sud-africain.
Et au Maniema, c'est depuis 4 jours que l'eau potable ne coule pas des robinets. Les abonnés de la régie des eaux craignent des maladies d'origine hydrique. Ils sollicitent l'intervention des autorités provinciales pour régler ce problème. C'est ce qu'elle nous explique à Kindu, Florence Kizalunga.
L'arrêt des eaux de la régie des eaux est dû à une panne survenue au groupe électrogène de cette société de l'État qui se trouve dans un état vétuste, a dit Pascal Bukanga, directeur provincial.
Nous avons un groupe électrogène de 150 kVA, vieux de 16 ans. C'est un groupe qui a été refait l'année passée, mais aujourd'hui on s'est retrouvé devant cette panne-là. Il y a un des cylindres qui a connu une fissure et dans ces conditions, on ne sait pas travailler.
Le gouverneur ad intérim Afan Idriss Amangala s'est rendu à la régie des eaux pour s'enquérir de la situation. Il donne sa promesse.
Nous venons de recevoir des éclaircissements auprès du directeur de la régie des eaux. D'abord, incessamment, j'ai instruit à mon cabinet de prendre contact avec le directeur de la RVA ainsi que le médecin provincial, chef de division, pour que comprennent une des machines de ces deux entreprises. Il y a une pièce qui est endommagée que le gouvernement provincial va prendre en charge l'achat et le transport de cette pièce qui est endommagée. La population doit espérer parce que le gouvernement se préoccupe de cette situation.
Cette visite a soulagé tant soit peu le directeur provincial. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la suspension de l'installation des compteurs électriques dans le Congo central suite à la surfacturation de ces appareils. Ainsi en a décidé à Matadi le ministre provincial de l'énergie. D'autres précisions avec Nana Plurichmambou.
Dans la loi sur l'électricité, la facturation forfaitaire est prohibée, raison pour laquelle les abonnés de la SNEL réclamaient tant l'installation de ces compteurs pour qu'ils paient réellement l'énergie consommée. Depuis le 24 février dernier que cette opération d'installation des compteurs électriques est lancée dans la province, Guilain Panzou, ministre provincial de l'énergie, affirme avoir enregistré plusieurs plaintes des abonnés.
Dernièrement, j'ai reçu une réclamation de toute une agglomération qui nous demande de venir enlever tous les compteurs qui ont été installés par la SNEL. Parce que imaginez-vous que quelqu'un qui vit dans un milieu rural, avant il payait 10 000, 15 000 francs congolais, maintenant on le facture 200 000 francs congolais.
Ce sont ces plaintes qui ont poussé le gouvernement provincial à suspendre cette opération. Car selon la loi, cette opération nécessite l'implication de l'autorité de régulation de l'électricité, l'organe pouvant certifier la conformité de ces appareils avant leur installation dans les ménages. D'après Guilain Panzou, le ministre national de l'énergie qu'il a reçu en audience pour cette problématique a opté aussi pour la suspension de cette pose de compteurs prépayés. Olivier Mwenze a invité le gouvernement provincial à saisir formellement cette autorité de régulation pour que celle-ci descende sur terrain afin d'examiner les plaintes de la population et y trouver des solutions.
Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et maintenant, les nouvelles du Nord Kivu. Les acteurs de la société civile et certains habitants redoutent la montée de l'insécurité dans les villes de Butembo et de Beni, vu l'afflux des déplacés venus de Goma et qui ne sont pas du tout contrôlés. Cette structure citoyenne propose l'identification des déplacés et des familles d'accueil en vue de se rassurer que des inciviques ne les ont pas infiltrés. Ces déplacés qui ont fui les menaces de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Les autorités locales rassurent que des dispositions sont prises pour faire face à toute éventualité. À Butembo, une correspondance de Grace Amzati.
Plusieurs observateurs notent que les déplacés venus de Goma entrent dans la ville de Butembo sans aucun contrôle ni d'identification. Il y a même ceux qui se dirigent vers Beni de la même façon. Cette situation inquiète la société civile de la province qui dit craindre une infiltration de la partie Grand Nord du Nord Kivu par des ennemis de la paix lors de ces mouvements. Edgar Matesso, vice-président de cette structure citoyenne, propose un contrôle systématique, y compris les maisons d'accueil.
On sait par exemple qu'avant les volcans, la communauté locale ne cessait de décrier qu'il y a des mouvements des personnes incontrôlées, non identifiées, qui migrent du sud vers le nord et qu'ils pourraient probablement être parmi ceux qui déstabilisent la province. Et maintenant que c'est un déplacement obligatoire pour tout le monde, on ne sait pas qui se déplace. C'est là que nous demandons à ce que l'on puisse veiller, surveiller. Au besoin, les maisons qui accueillent ces déplacés devraient être contrôlées pour que l'on ne soit pas surpris.
Le maire sortant de la ville, Sylvain Kanyamanda, dit avoir pris des dispositions idoines avec tous les services de sécurité pour faire face à toute éventualité, tout en appelant la population à la vigilance. De son côté, le commandant intérimaire de la PNC ville de Butembo affirme avoir actuellement renforcé les patrouilles dans la ville. Butembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Pendant ces temps, la scolarisation des enfants déplacés de Goma vers Bukavu au sud Kivu est une priorité pour la division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la province éducationnelle sud Kivu 1. Le chef de division demande aux déplacés de Goma de faire inscrire leurs enfants dans des écoles les plus proches de leur site d'hébergement. Reportage à Bukavu de Jean Kassami.
Le chef de division de l'EPST Sud Kivu 1 qui signe le communiqué insiste sur le fait que tout sera gratuit et cela dans tous les réseaux de l'enseignement tant public que privé.
Il est demandé aux parents des élèves, des familles qui sont venus de Goma d'aller inscrire leurs enfants à travers les écoles qui leur sont proches. Au chef d'établissement d'accueillir et d'inscrire ces élèves sans contrainte aucune.
Ses parents venus de Goma s'interrogent sur la matérialisation de la mesure.
Cet appel, c'est une bonne idée, mais il y a des petites contraintes. Niveau scolaire d'abord. Les enfants, ils sont nombreux. Ils viennent de différentes écoles. Les niveaux élémentaires, primaires, secondaires ne sont pas les mêmes.
Le préfet du complexe scolaire La Perrot doute qu'une telle mesure puisse réussir dans les écoles privées qui vivent des frais payés par les parents.
Vous savez que dans les écoles privées, ce sont les parents qui sont les sponsors. Alors s'il n'y a rien qui vient de la part des parents, bah.
À noter que les déplacés de Goma ont un délai de 15 jours à passer en dehors de leur ville au cas où la situation venait à se stabiliser. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où les activités commerciales ont repris hier mardi au centre-ville de Goma. C'est notamment dans les quartiers Mapendo, communément appelés Birere, et le quartier Les Volcans. Cette situation prend en compte les derniers développements favorables alors que l'instruction du gouverneur du Nord Kivu reste en vigueur, celle d'évacuer la zone à risque d'une nouvelle et probable éruption volcanique de Nyiragongo. Pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Nyangi.
Au centre commercial de Birere, l'on observe ce mardi les boutiques, alimentation, bars, restaurants qui sont ouverts et les activités commerciales y vont bon train. Il est vrai que la zone est encore dans la phase rouge, en conformité avec les dernières alertes de la cellule provinciale de crise. Le président de l'association des boutiquiers de Goma est formel. Cette reprise des activités ne constitue pas un acte de défiance de l'ordre de l'autorité provinciale. Il justifie la réouverture par des contraintes liées à des engagements des opérateurs économiques vis-à-vis des banques, mais aussi le souci de protéger leurs biens. Kembo Amnasi.
La plupart des opérateurs économiques travaillent avec des crédits des banques. Ils ont compris que malgré ça, il faudrait qu'on puisse y rentrer. Les différentes banques ne peuvent pas dire non, il y avait l'éruption volcanique dans ces mois ici, on va vous exempter les remboursements de ces dettes-là. En plus de cela, d'autres opérateurs économiques, il faudrait qu'ils puissent venir vendre ces marchandises afin de garder l'argent pour payer la personne qui lui avait fourni cette marchandise. Et ce sont des qui sont toujours victimes de pillages, par exemple.
Kembo reconnaît qu'actuellement, toutes les affaires tournent au ralenti du fait que la ville de Goma restait encore vidée des milliers de ses habitants, ce qui prive les opérateurs économiques d'une bonne partie de leur clientèle. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Chaque fois qu'il y a catastrophe naturelle dans un pays, le premier service qui arrive sur les lieux, c'est l'armée. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Kinshasa le ministre de la Défense nationale lors de la prise d'armes tenue au camp Kokolo à l'occasion de sa présentation au FRDC par le chef d'état-major général des FRDC, le général Céleste Mbala. Gilbert Kabanda-Kourenga a indiqué que son plan d'action porte notamment sur le renforcement du leadership des FRDC et la bonne gouvernance. Ces propos ont été recueillis par Alain Rungmouchi.
Nous devons mettre notre armée au service de la nation à travers la production. Par exemple, des rations de campagne pour nos militaires. Il est anormal que nos militaires meurent de faim ou qu'on leur envoie des sacs de haricots au front, sacs de haricots qui sont préparés quand ils sont déjà dans le trou de fusilier, alors que nous pouvons leur fournir de la pâte d'arachide, du chikwang et de la viande boucanée, qui sont des aliments hautement nutritifs. Le quatrième point de mon programme, c'est le rôle de l'armée dans la gestion des catastrophes. Vous ne l'ignorez pas qu'à travers le monde, chaque fois qu'il y a catastrophe dans un pays, en Amérique, en Asie, même en Afrique, dans les 24 heures, les premiers services qui sautent sur le lieu de la catastrophe, c'est l'armée. La force aérienne, le service de santé, le service de génie, pour ne parler que de cela. Nous avons aussi cette capacité de sauter sur les lieux des catastrophes de notre pays. Vous savez que notre pays est un pays à catastrophes. Il y en a au moins une majeure chaque mois. Nous devons donc fournir, rendre service à la nation aussi dans ce domaine.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi ce soir, je vous propose d'aller maintenant à Mbujimayi où le projet du DAIPN, le domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelé Lukelenge, situé dans la commune de Dibindi, sera désormais géré par le Fonds de promotion de l'industrie. La remise reprise entre LR Group et le FPI a eu lieu hier lundi. LR Group est une entreprise israélienne qui s'occupait du DAIPN Lukelenge depuis la relance en 2019 du projet d'élevage des poules et des chairs et de la production des œufs dans le cadre du programme d'urgence du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Deux ans après l'exécution de la première phase, qui consiste en la réhabilitation des fermes avicoles et la modernisation des infrastructures associées à l'élevage des poules pondeuses et à la production d'œufs à la ferme d'Aipen et Lukelenge, l'entreprise LR Group s'est enfin retirée de la gestion de cette unité de production des poules. C'est le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, qui prend désormais la gestion de cette ferme. D'après le directeur adjoint du FPI, une équipe d'experts locaux a été recrutée pour superviser les travaux en attendant la restructuration. François Pouila.
Nous, en tant que FPI, nous allons travailler sur le business plan, sur les statuts déjà apprêtés et lancer appel aux autres partenaires qui viennent non pas comme prestataires, mais comme partenaires au capital.
Interroger les habitants de Mbujimayi souhaitent cependant vivre la réduction des prix des poulets, des chairs ainsi que des œufs produits localement. Jeanne Miandabou. Acheter une poule à 15 000 francs, équivalent à 7,5 dollars, un plateau d'œufs à 9 000 francs ou 4,5 dollars, c'est quand même cher car le salaire ne permet pas que le FPI réduise quand même le prix. Signalons que le projet d'Aipen et Lukelenge a été financé à hauteur de près de 5 millions de dollars dans le cadre du projet de 100 jours du chef de l'État. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après la CEDEAO, c'est l'Union africaine qui a décidé aujourd'hui de suspendre le Mali de ses instances dirigeantes. Mais l'Organisation continentale africaine n'a pris aucune autre décision allant dans le sens de pénaliser les nouveaux dirigeants du Mali au moment où le pays attend la nomination du nouveau Premier ministre. Et puis Isaac Herzog, politicien de longue date, issu du mouvement travailliste, a été élu ce mardi président israélien, une fonction essentiellement honorifique. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est empressé de le féliciter.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé du monitoring à la Convention pour le respect des droits humains basée à Beni au Nord-Kivu. Maître Eli Kionga explique comment les organisations de défense des droits de l'homme perçoivent les atrocités qui ont été commises par des hommes armés au mois de mai dernier. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Maître Eli Kionga, bonjour.
Oui, bonjour.
Le mois de mai n'a pas été rose pour plusieurs entités du secteur de Renzo, ici à territoire de Beni, et même certaines localités frontalières avec la province de l'Ituri, vers Boga et Tchabi. CRDH, qu'est-ce que vous avez fait comme constat?
La CRDH a vraiment des remords par rapport à tout ce qui est en train de se passer à Beni territoire, ainsi qu'à la province de l'Ituri, et précisément Irumu. Et si vous voyez plus là, vous allez comprendre que en un mois seulement, à Beni territoire, nous avons compté plus de 60 morts, des attaques répétitives qui ont ciblé le même endroit. Et donc, au-delà des 60 morts que nous comptons à Beni, à Irumu maintenant, c'est le plus pire. Là, nous avons compté plus de 60 morts aussi. Seulement, dans une distance de 3 jours, on compte plus de 120 morts. Et vous comprenez que vraiment c'est une catastrophe que nous sommes en train de traverser dans les deux provinces et surtout le territoire de Beni et de l'Irumu. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion, supplier le chef de l'État de nous décréter une journée nationale qui sera uniquement consacrée au deuil et à mémoire de toutes les victimes qui nous ont le cependant ce massacre de Beni et de l'Irumu. Nous sommes déjà au-delà de 140 morts. Que le président vraiment puisse ne fût-ce que décréter une journée de deuil national. En faisant cela pourra toi souper, montrer aux victimes que réellement toute la communauté nationale se ligue derrière vraiment le malheur qu'est en train de traverser les populations de l'Est.
Maître, avec cela, on voit que certaines attaques ciblent même les camps de déplacés. N'est-ce pas un crime de la hauteur internationale, ça?
En tout cas, nous pensons que il faudrait peut-être définir ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Parce que ce que nous vivons ici à Beni et à Irumu, je ne sais pas si on pourra utiliser quel autre terme à part les crimes contre l'humanité. Je pense que c'est le terme le plus approprié par rapport à ça. Et donc, attaquer les cas de déplacés, incendier les structures sanitaires et les écoles, appâter les têtes des femmes enceintes, devendre les femmes, mettre les têtes des personnes dans les casseroles, Je pense que ces mots suffisent pour que les crimes contre l'humanité puissent être constatés. Et donc, tout ce que nous disons, nous recommandons en ce que les chefs de l'OTAN puissent nous décréter ne fût-ce qu'une journée de deuil national à mémoire de toutes ces victimes-là.
Et CRDH fait quel type de recommandations à ce nouveau gouvernement qui nous dirige actuellement, donc le gouvernement militaire?
Tout en saluant les efforts fournis par nos forces armées, toutes les structures de protection des droits humains se liguent derrière les forces armées afin que ceux-ci puissent nous apporter une solution définitive. Nous sommes derrière notre armée et vraiment nous allons l'accompagner jusqu'à ce que la paix soit une vraie réalité que nous allons palper à Beni territoire ainsi que dans notre province de l'Ituri. Nous appelons toute la population à bien collaborer, à fournir des efforts ainsi que des éléments nécessaires qui pourra tant soit peu apporter la paix pour le compte de tous.
Maître Elie, nous vous disons merci.
C'est nous qui vous remercions.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chargé du monitoring à la Convention pour le respect des droits de l'homme basée à Beni. Maître Elie Kionga était interviewé par Marc Marofimo à Kinshasa. Il est 18h20. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élise Chikota Mwamboui, à Alain Rungmouchi, GPL, Kipe Lamondo qui m'ont accompagné. Retrouvez toutes ces nouvelles sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi.